chers amis, arrêtons-nous ensemble devant la parole de Dieu. Tout d'abord, Apocalypse 21, les versets 9 et 10 d'Apocalypse 21. Et l'un des sept anges qui avait eu les sept couplets des sept derniers plaies vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et nous lisons le psaume 84. Des fils de Corée, psaume, « Combien sont aimables tes demeures, ô éternel des armées. Mon âme désire et même est le languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Le pasteur même a trouvé une maison, l'hirondelle un nid pour elle où elle a mis ses petits. Tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront incessamment, c'est là. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Passant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine, la pluie aussi la couvre de bénédictions. Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Dieu de Jacob, prête l'oreille, c'est là. Toi, notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Car un jour dont tes parvis vaut mieux que mille. J'aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que de demeurer dans les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, bienheureux l'homme qui se confie en toi. C'est en pensant, chers amis, au premier verset de ce psaume 84 que le Seigneur m'a donné cette pensée sur la lecture des deux versets d'Apocalypse 21. Nous savons tous que la présence du Seigneur remise au milieu des siens est un privilège, une grâce particulière en attendant le grand rassemblement des cieux. C'est bien clair. Et ces deux versets d'Apocalypse 21 prennent dans ce sens, j'aime à le penser, une signification particulière et profonde pour chacun de nous. Est-ce que nous réalisons ce soir que le Seigneur a fait des promesses particulières pour ceux qui sont assemblés en son nom, non pas autour d'un frère de passage qui vient de Suisse, mais chez lui, avec lui, autour de lui. J'aimerais, frères et sœurs, bien aimer que nos regards se portent vers lui, qui est venu du ciel prendre en main la corde et perdue, la mienne, la vôtre. Celui qui s'est avancé, comme nous le chantons quelquefois, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. L'apôtre Jean a vu ce que sont ces sept plaies, ces jugements terribles. Il y a un point à la ligne, et alors au verset 9 d'Apocalypse 21, l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla disant, « Viens ici, je te montrerai les douces, la femme de l'agneau. » Oh mes amis, l'épouse fait penser à une relation éternelle avec celui qui est l'époux. Est-ce que nous réalisons tous, mes amis, ce que c'est que de connaître Jésus, ce que c'est qu'être membre du corps de Christ, réaliser que l'Église a une relation éternelle avec lui. Il est l'époux qui est venu, suite au conseil éternel, prendre en main la cause des perdus. Je le répète à dessein. Une crèche à Bethléem, un chemin de suprême abaissement, où ces fois dans l'évangile de Jean, on cherche à faire mourir le Seigneur. Une croix dressée, sa mort accomplie à Jérusalem, comme le rappelle Luc 9 dans ses versets 30 et 31. Y aurait-il quelqu'un parmi nous qui n'ait pas une relation éternelle avec Jésus? Quelqu'un qui n'ait jamais avancé sa main de perdu pour saisir la sienne qui a été percé à Golgotha? Probablement que plusieurs ici, tous, connaissent Jésus. Nous avons été élevés dans des pays où le livre est répandu, le livre des livres, où ce livre a été ouvert dans les familles, la parole de Dieu. Nous avons tous entendu, un jour ou l'autre, parler de cette croix dressée. Nous avons probablement entendu, j'ai mal pensé, le cri douloureux du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Y aurait-il quelqu'un qui n'ait jamais entendu ce cri ce soir? Chers amis, nous savons beaucoup de choses ayant été enseignées, mais est-ce que nous réalisons le prix qui a été payé pour que nous ayons une relation éternelle avec celui qui nous aime, qui nous unit et qui vient bientôt, ce soir peut-être? Suis-je prêt si Jésus vient ce soir? Es-tu prête? Es-tu prêt? Si je vois l'Église au travers de mon pauvre cœur, le mien, si je vois l'Église au travers de ceux qui sont là, je suis peut-être découragé. Mais si je monte sur la montagne, comme en Apocalypse 21, mes amis, si je vois l'Église ce qu'elle est, la femme de l'époux, avec cette relation à toujours, mais si je vois l'Église, qu'elle épouse la femme de l'agneau. Pourquoi est-elle appelée la femme de l'agneau? C'est parce que l'agneau a souffert pour elle. J'aimerais tellement que ces deux expressions restent sur nos cœurs. Si le Seigneur nous accorde encore quelques jours avant son retour, nous réalisions ce que veut dire l'épouse, la femme de l'agneau. Quelque chose s'est passé à Golgotha pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi. Monte sur la montagne. Vois les choses dans le conseil éternel de Dieu. Réalise ce qu'a été cette mort accomplie. Achète la lunette du ciel. pour voir les choses depuis le haut. Et tu seras en bénédiction pour ceux qui sont avec toi. Engage-toi de tout ton cœur pour celui qui le premier s'est engagé jusqu'à la mort pour toi. Si j'ai lu ce psaume 84, c'est parce que dans le premier verset, les fils de Corée sont conduits à nous donner ce mot combien sont aimables tes demeures, ô éternel des armées. Qui étaient les fils de Corée? C'étaient les fils d'un homme qui avait une position dans le peuple, un homme certainement doué, mais qui avait osé s'élever contre Dieu et contre Moïse, parler de la part de Dieu. Cet homme, avec son assemblée, bien sûr, a connu un jugement terrible. Nous avons cela dans le livre des Nombres. Je ne lis pas ces passages. Chacun peut les lire à la maison. Chapitre 26 des Nombres, 16 déjà. Mais il y a un verset qui est très beau dans le 26 qui nous dit simplement ceci. Que les fils de Corée ne moururent pas. Ils étaient donc, comme vous et moi, des objets de la grâce de Dieu. C'est pourquoi les psaumes des fils de Corée sont imprégnés de cette pensée de la grâce de Dieu. Suis-je imprégné de cette grâce? Es-tu, mon frère, es-tu, ma sœur, comme imprégné de cette grâce? Toi qui sais, toi qui as entendu, toi qui as ouvert ta Bible, toi qui t'es peut-être souvenu de la mort du Seigneur dimanche après dimanche, mais réalises-tu ce que c'est que d'être là chez lui, autour de lui, ce soir, en attendant le ciel? Pour celui qui écrit, bien sûr, les aimables demeures, c'était les lieux où Dieu rencontrait son peuple. Mais le verset 2 est très précis et très précieux. Mon âme désire et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon âme désire. Je ne sais pas si vous est arrivé de chercher dans vos Bibles les passages où il est question de ce désir. Nous avons le verbe désirer aussi. En Ésaïe 26, on l'a cité souvent, il y a un désir bien marqué. Notre désir est après ton nom, après ton souvenir. Oh, que les croyants de ce temps puissent le dire de tout leur cœur maintenant. Quand sur la table du Seigneur, il voit les signes qui d'âge en âge rappellent son amour, sa vie donnée à Golgotha. Rappelle aussi de sa victoire sur l'ennemi et sur la mort. Notre âme désire. Ici, mon âme désire, chers amis. Si la réunion de l'Assemblée marquer ce désir de tous les cœurs, nous sentirions, nous réaliserions quelque chose, comme disait un frère de votre pays, quelque chose de l'atmosphère du ciel. Comment sommes-nous venus ce soir ici? Avons-nous demandé au Seigneur, chacun, que ce qui serait lu de sa part, ce qui serait dit de sa part, touche les cœurs, répond aux besoins des cœurs? Comment sommes-nous venus ici ce soir? Avons-nous réalisé quelque chose de ce moment unique que le Seigneur nous accorde autour de lui, avec lui, chez lui? Ne m'en voulez pas si je répète. C'est tellement important. Si je viens ici parce que j'ai reçu une sainte convocation du Seigneur qui est mort pour ôter mes péchés, qui est le vainqueur de la mort. Mais si je viens avec ce désir, mes amis, l'heure sera à sa gloire. Malgré les éléments bien faibles et timides qu'il emploie, je le conçois et le réalise personnellement, bien sûr. Combien nous sommes petits devant sa personne, devant la parole de Dieu. Nous ne sommes pas étonnés que l'apôtre Pierre écrive dans le premier chapitre de sa première épître au verset 25, « C'est la parole du Seigneur qui demeure éternellement alors que nous passons. » Le psalmiste dans le 119 écrivait déjà que cette parole est établie à toujours dans les cieux. Nous est-il arrivé de rendre grâce aujourd'hui chacun parce que nous avons la parole de Dieu, non seulement dans nos mains, mais Dieu veuille dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. C'est la parole qui est établie à toujours dans les cieux. Eh bien, mon âme désire être là où Jésus rassemble les siens. Et puis, la suite de ce verset 2 est remarquable. Mon âme, elle languit après les parvis de l'Éternel. Ah, si nous connaissions cette langueur, en Suisse comme en France, mais quelle joie d'être chez lui et de réaliser qu'il vient bientôt. Par trois fois, il le rappelle dans la dernière page du livre, « Languit après les parvis de l'Éternel ». Lors du départ d'une chère sœur, j'entendais ce mot « Le plus beau jour est devant moi, c'est le jour où le Seigneur me recueillera. » Chers amis, est-ce que je languis après les parvis de l'Éternel? Est-ce que je réalise ce que c'est que de connaître Jésus, ce que c'est que d'attendre Jésus, qui a fait des promesses à ceux qui l'attendent, bien sûr? Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Nous crions si peu. Nous connaissons ces passages. Peut-être que vous vous êtes dit ce soir, en entendant parler du psaume 84, mais on le connaît, on pourrait presque le réciter. Ce n'est pas nouveau. Un frère qui vient de la Suisse pour nous lire le psaume 84. Chers amis, si nous pouvons dire Amen à chaque verset de ce psaume, c'était très important que nous le relisions ensemble. As-tu de la joie à être chez Jésus? Premier verset. As-tu désiré cela? Est-ce que tu languis? Verset 2 de ce psaume. Et nous sommes étonnés alors qu'avec le verset 3, il soit question de ces petites créatures. Le passereau même a trouvé une maison, l'hirondelle a mis pour elle, où elle a mis ses petits. Et il y a des points suspensifs. Pourquoi? Dieu va nous dire ce qu'est un nid paisible, un endroit paisible pour ces petites créatures. Le passereau, c'est un insouciant. Selon la parole de Dieu, l'hirondelle est active. Si vous lisez Proverbe 26 dans son verset 2, vous comprenez tout de suite. Mais les points suspensifs ne sont pas là à l'aventure. Parce que Dieu va nous rappeler quelque chose d'important. après ces points suspensifs, tes autels, ô éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Pourrions-nous dire un mot des autels et de l'autel, précisément, sans que notre regard se porte sur notre Sauveur bien-aimé, sur celui qui a dit « Je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. » As-tu réalisé, cher ami, qui que tu sois, jeune ou moins jeune, que celui qui est Dieu béni éternellement sur toute chose est venu sur la terre à cause de toi, pour te libérer de ta mort morale. Et comme nous l'avons dit déjà dans la prière, pour ôter tes abyssales et recevoir alors des habits de fête. Y aurait-il quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur ce soir? Oh, chers amis, viens à lui. Venez à moi. Vous connaissez l'appel de Matthieu 11. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous, ne gardez pas votre fardeau de misère. Venez à celui qui délivre, celui qui a donné sa précieuse vie pour vous. Ce soir encore, il appelle, c'est peut-être la dernière fois. Eh bien, ces petites créatures, passereaux et hirondelles, connaissent un endroit paisible à cause de lui. Mais pour vous, un autel a été dressé à Golgotha. Est-ce que ce mot autel pourrait me laisser insensible, pourrait ne pas m'arrêter devant la croix? Plusieurs autels sont rappelés, vous le savez bien. Le livre de l'Exode, déjà, dans son chapitre 20, nous parle de l'autel de terre. C'est la mort de Christ. Il est question de l'autel des reins, où Christ a payé le prix de notre salut. Il est question de l'autel de pierre, qui fait penser alors à la résurrection, à l'autel de l'encens, qui nous parle de tant de choses de Christ, même de l'adoration de ce qu'on lui doit. Est-ce que nous réalisons tous ce que nous devons au Seigneur? C'est remarquable ce début de psaume dans cela. L'autel de terre qui nous parle de l'humanité, de la mort de Christ. L'autel de pierre, de sa résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, dit l'apôtre aux Corinthiens, mais vous êtes encore dans vos péchés. C'est pourquoi notre christianisme prendra sa signification particulière et profonde, mes amis, dans la mesure où souvent, comme le disait un frère de votre pays, où souvent vous vous arrêtez devant la croix, comme devant le tombeau vide. La mort et la résurrection de Christ, tes autels. C'est précieux ce passage, il faudrait des réunions et longtemps pour s'y arrêter. Mais au ciel, nous y serons arrêtés pour toujours devant celui qui a souffert, qui est mort, qui a vaincu la mort. Nous le contemplerons à jamais, non plus avec des corps d'infirmité, mais, dit l'Écriture, avec des corps de gloire. C'est cela l'avenir du croyant. Alors que nous sommes tellement portés à voir les choses sur la terre, cette terre où tout passe, où l'ennemi s'applique le plus possible à faire des ravages, à distraire, à empêcher que les créatures portent leur regard en haut et en avant. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront incessamment. C'est là. Comme si le Seigneur nous disait ce soir, chers amis, en pensant que tous nous le connaissons, comme s'il nous disait ce soir, mais ce que vous réalisez maintenant, en partie et par grâce, mais c'est comme un acompte de ce que vous allez réaliser bientôt avec moi dans la maison du Père. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront incessamment. Ce passage doit nous encourager à lever les yeux. Vous savez bien que tout au long de l'Écriture, Dieu a voulu que des passages nous invitent à lever les yeux. La bête romaine, comme l'Antichrist, selon l'Apocalypse 13, sont appelés bêtes. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent la terre. Pour cela qu'ils sont des bêtes. Leur regard se porte vers la terre. Mais le croyant lève les yeux vers le ciel. Quand Noé construit, en Genèse 6, vous savez bien, son immense bateau, il n'est fait qu'au plafond, il y ait cette ouverture. Nous lisons cela dans le chapitre 6 de la Genèse. Tu feras un jour à l'arche, tu lui donneras telle et telle mesure. Tu seras à l'abri pendant le jugement, pendant le déluge, c'est vrai, mais tu auras un contact permanent avec le ciel. Suis-je ce croyant qui a un contact avec le ciel en permanence, ou suis-je ce croyant qui se laisse un peu aller parce qu'il est à l'abri pour l'éternité, Christ est mort pour lui, il est assuré de son salut, de sa paix, de son pardon. Qu'importe. Alors, chers amis, nous comprenons pourquoi l'apôtre Pierre, à la fin de sa deuxième épître, nous dit « Croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. » Ne stationnez pas. Si vous stationnez, mais vous allez en arrière, vous ne faites pas de progrès. Bienheureux, ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront incessamment. Et dire que maintenant déjà, notre Dieu est honoré, lui qui a cherché des adorateurs, qui le font en esprit et en vérité. Il est honoré en voyant ses enfants qu'il adore, qui rappelle ce qu'il est, qui rappelle ce qu'il a fait, ces choses glorieuses et magnifiques, en voyant ses enfants aussi qui avancent leurs mains pour prendre le morceau que Jésus leur tend en disant « Ceci est mon corps ». Qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Sommes-nous sensibles, mes amis, au fait que le Seigneur nous accorde cela. Au ciel, nous ne parlerons pas d'une autre souffrance, d'une autre personne, d'un autre nom. Ce que nous faisons maintenant, toute proportion gardée, et déjà à la gloire du Seigneur. Nous nous arrêtons devant l'autel. Nous faisons, comme dit le psaume 26, le tour de l'autel en attendant de le voir bientôt. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison. Mon cher frère disait souvent, ce que nous réalisons maintenant, c'est déjà quelque chose de ce que nous connaîtrons bientôt, en perfection. Et puis, il y a un bienheureux qui suit, celui dont la force est en toi, ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Nous n'avons pas le temps matériel de lire les passages où il est question des chemins battus, des chemins frayés. Ésaïe 35, Jérémie nous disent quelque chose de ces passages. Mais j'ai entendu très jeune un cher ami nous dire dans une réunion comme ce soir, un cœur qui est ouvert pour recevoir la parole du Seigneur, c'est déjà un chemin frayé. Que nos cœurs soient ouverts, et le mien le premier, pour recevoir la parole de Dieu. Dans le 32 du Deutéronome, déjà, quand il est question de Dieu qui aime les peuples, verset 3, les siens sont dans sa main, ils se tiennent à ses pieds, ils reçoivent ses paroles. Il y en a quatre choses qui appellent une méditation profonde et remarquable. Il m'a aimé, il me tient dans sa main, je suis à ses pieds, et tant que je suis à ses pieds, tout va bien. On est gardé de l'orgueil si on se tient aux pieds du Seigneur. Dans le 7 des Romains, celui qui n'est pas affranchi, mais qui est croyant quand même, il dit 50 fois « moi je ». Mais dans le 8 des Romains, quand il est libéré de son « moi », il rappelle 19 fois ce qu'est l'esprit. C'est différent de cela. Les chemins frayés. Et puis ce verset 6, qui a réjoui tant d'amis dans la paix, alors qu'il y a tant de larmes, qu'il y a tant d'épreuves dans le peuple de Dieu, dans nos familles, chers amis. Passant par la vallée de Baca, la vallée de l'épreuve, la vallée des pleurs, Josué en dit déjà quelque chose. Eh bien, dans cette vallée de l'épreuve, des larmes, il y a pourtant une fontaine, ils en font une fontaine. De quoi nous parle la fontaine ? Mais de rafraîchissement. Comment être encouragé dans la vallée de l'épreuve, dans la vallée des larmes, si ce n'est par le Seigneur, ce grand souverain sacrificateur qui lui a pleuré en face d'un tombeau, lui qui a la langue des savants selon Ésaïe 50, pour donner le mot dont j'ai besoin dans l'épreuve. Lui qui est miséricordieux, selon Hébreux 2, versets 17 et 18, il est fidèle à même de me secourir. Lui qui a dit, en Jean 10, verset 14, « Je connais les miens, moi, le bon berger, je connais les miens, je te connais. » Je sais qu'aujourd'hui, peut-être, des larmes ont coulé. Je sais qu'aujourd'hui, tu as été inquiet. Mais je te connais. Et toi, tu me connais. Je connais les miens et je suis connu des miens. Si quelqu'un parmi nous n'a jamais lu ce verset 14 de Jean 10, eh bien qu'il le lise et le médite. Un cher frère nous disait, il y a dans ce verset un aller-retour d'amour entre Jésus et ses bien-aimés. Il les connaît, mais eux le connaissent. En retour, il y a un rafraîchissement, une fontaine, même dans la vallée de l'épreuve. Il y a même, plus loin, la pluie qui la couvre de bénédictions. Oh, chers amis, y a-t-il un cœur chargé parmi nous ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a été inquiet aujourd'hui, qui a pleuré? Pensez à la fontaine, à la pluie de bénédictions. On apprend des choses dans l'épreuve qu'on n'apprend peut-être pas autrement. Parce qu'il y a des ressources infinies. Et celui qui nous aide, celui qui nous unit et qui vient bientôt ce soir peut-être. Je ne touche pas à ce qui est vraiment prophétique dans ce chapitre. Mais il semble que pratiquement, dans le temps auquel nous sommes arrivés, chaque verset nous dit quelque chose d'infiniment actuel, pratique, pour nos cœurs, pour nos esprits. Alors nous ne sommes pas étonnés qu'au verset 7, il soit question d'une marche de force en force. Proverbe 4, 18, déjà nous dit que le chemin du juste, c'est le chemin où la lumière va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Nous rejoignons cette pensée de l'apôtre Pierre. Il faut croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Eh bien, qu'il me soit accordé, chers amis, de désirer cette croissance. Ce chemin où la lumière va croissant, en attendant la maison où nous sommes aimés et attendus, où des places ont été préparées au prix que vous savez. Dans les versets 8 et 9, nous n'avons pas le temps de méditer plus longtemps. L'heure est là. Il est question de la prière. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Dieu de Jacob, prête l'oreille. Toi, notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Oh, mes amis, s'il y a réponse à nos prières, nous le comprenons bien. Le précieux secret de l'exaucement de nos prières, c'est qu'elles sont présentées au nom du Seigneur, qui est loin de Dieu. Cela aussi est précieux. Suis-je un homme de prière dans le peuple de Dieu? Ou est-ce que je me satisfais peut-être d'une prière à table, d'une réunion de prière, où je manque même, où je vais occasionnellement seulement? Ah, la prière, c'est tellement important, ce contact avec le ciel, la constance dans le contact. On a souvent perdu du temps, on a laissé passer le temps, et je le dis pour moi le premier, on a laissé passer le temps, alors qu'il y avait ce contact qui devait être constant et faire de nous des croyants qui font envie parce qu'ils ont la paix, le salut, le pardon que Jésus donne à quiconque se repent, à quiconque croit. Nous comprenons le verset 10. Les fils de Corée qui avaient vu un terrible jugement s'abattre sur leur père et l'assemblée de leur père, ceux qui avaient suivi leur père dans l'opposition, dans la contradiction, Alors on comprend que leur langage soit tenu au verset 10. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. Et alors au verset 11, l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La grâce et la gloire, oh mes amis. Si nous réalisons ce soir ce qu'est la grâce de Dieu, apparue à tous les hommes dans la personne du Seigneur Jésus, selon ce qui est écrit en Tite 2, verset 11, cette grâce qui enseigne et cette grâce qui porte notre regard sur notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2 nous dit cela. La grâce et la gloire. Vous savez que le Seigneur a dit deux fois « je veux ». « Je veux » aux lépreux, dans Matthieu 8, qui vient au Seigneur avec foi. Le Seigneur dit « je veux, sois net ». Et le lépreux est guéri. Dans Jean 17, dans la prière remarquable du Seigneur, au Père, au verset 24, le Seigneur dit une fois encore, je veux. Je veux ceux que tu m'as donnés, qu'ils voient ma gloire. Oh, chers amis, grâce et gloire, si ces deux mots remplissaient nos cœurs, en portant notre regard sur lui, je le répète, nous ferions envie à ceux qui n'ont que la terre. Même le roi Salomon, avec tout son argent, avec tout ce qu'il avait, tous les débordements, si vous lisez son Ecclésiaste, le chapitre 6 en particulier, pas de contact avec le ciel, tout est négatif, rien ne va bien. Et pourtant c'était un croyant. Portons notre regard vers Jésus, qui nous aime et qui vient. Et puis ce dernier verset, question de ceux qui marchent dans l'intégrité, verset 11, vous savez bien que la droiture a une place particulière, il faudrait lire plusieurs psaumes et plusieurs passages, mais chacun comprend le sens profond de ce passage. Mais le dernier verset, Éternel des armées, bienheureux l'homme qui se confie en toi. Le livre des psaumes, comme Ésaïe, comme beaucoup de passages, nous parle de la confiance. Tu garderas dans une paix parfaite. Ésaïe 26, 3. L'esprit qui se confie en toi, qui se confie en toi. Oh, que nous soyons ses frères, ses sœurs, qui se confie dans le Seigneur, qui reçoit de sa parole et qui progresse, je le répète encore selon Pierre, dans cette grâce et la connaissance de sa personne. Bienheureux ceux qui se confient en toi. Le psalmiste dans le 94, sa erreur dira, il est le rocher de ma confiance. Et il y aurait des dizaines, voire peut-être des centaines de passages où il est question de la confiance. Et cela nous manque souvent, comme si nous enlevions quelque chose à l'œuvre de Christ, à ses ressources, à sa grâce, à ce qu'il est pour ses bien-aimés, en attendant la maison du Père. Amis, prenons courage. Que cette simple lecture ce soir, cette méditation peut être bien faible, en face des profondeurs du livre, mais que ces passages de la parole nous encouragent pour aller de l'avant si le Seigneur n'est pas venu tout de suite. Et je le répète, peut-être ce soir, que sa bénédiction repose sur vous tous, bien-aimés, qui avez répondu à sa convocation ce soir. Vous tous, vos familles, assemblées représentées.